Chapitre 2. Monsieur et Madame Ettlinger habitaient Nice depuis 9 ans lorsque, dans les premiers jours de février 1915, un télégramme parvint à leur adresse. Sans un mot de consolation ni d'affection, Monsieur Villemur annonçait à sa fille que Bertrand, son fils cadet, celui qui justement ne s'était pas élevé contre le mariage d'Annie, avait été grièvement blessé. Le soir même, elle partait pour Paris. M. Ettlinger l'accompagna à la gare. Sous la verrière immense où chaque bruit avait un écho, sur le quai encombré de permissionnaires, de blessés, d'infirmières, Annie pleura. C'était la première fois depuis son mariage qu'elle se séparait de Jean Melchior. De le faire en une circonstance aussi dramatique lui rappelait les années qui venaient de s'écouler. Elle eut le pressentiment que cette minute marquait le terme d'une période heureuse. Dans un instant, elle serait seule au milieu d'un monde dont elle s'imaginait avoir fui les peines et qui semblait déjà prendre sa revanche. Une semaine plus tard, une toute autre femme descendit du train. Elle fit signe à un porteur, lui tendit elle-même ses bagages. Personne n'eût pensé que son frère avait été amputé d'une jambe quelques jours auparavant et qu'il se trouvait encore entre la vie et la mort. « Je te cause bien des ennuis, mon pauvre Melchior, » dit-elle à son mari, qui s'était avancé à sa rencontre. Elle faisait allusion aux lettres qu'elle lui avait écrites de Paris et dans lesquelles elle n'avait fait que consigner les événements qui s'étaient passés au cours de son voyage. Ils prirent une voiture découverte. La soirée était printanière. Le cheval s'en alla au pas. Dans l'air parfumé par une odeur de bois brûlé et de mimosa, loin de la guerre, c'était un soulagement de ne plus être pressé. Annie semblait indifférente. À la maîtrise qu'elle avait montrée en arrivant, afin de rassurer de loin son mari, avait succédé une grande lassitude. Elle se demandait si elle ne s'était pas trompée en épousant Jean Melchior, si sa famille n'avait pas eu raison malgré tout de s'opposer à son mariage. Ce n'était pourtant pas qu'en vieillissant, son amour eût diminué. Il s'était simplement transformé. Ce qui, jeune fille, lui avait paru si beau, la lutte, le départ, l'isolement avec un homme que l'on aime, tout cela avait été tué par ces réalités quotidiennes dont elle s'exagérait l'importance. En se retrempant dans cette famille qui était la sienne, où il lui semblait justement qu'il n'y avait aucune de ces réalités, où elle avait eu l'impression d'être une renégate, de s'être soustraite aux peines de tous, alors que jusque-là, elle avait cru que c'était le contraire, qu'en quittant les siens, elle avait quitté la sécurité bourgeoise, il lui était apparu qu'elle avait peut-être été aveuglée par l'amour. On l'avait reçue avec beaucoup de cordialité. Le fait qu'elle était venue seule, que par sa faute on ne pouvait compter son mari parmi les membres de la famille, avait plané sur les premiers entretiens. Puis personne n'avait paru se souvenir de ce qui s'était passé. Un après-midi, elle avait même été voir, dans une maison de retraite de Neuilly, son ancienne femme de chambre, sa chère Élisabeth. En pleurant, celle-ci lui avait dépeint la tristesse dans laquelle son départ avait plongé sa famille. Tant de bienveillance rencontrée partout avait fait naître en elle des remords. Elle les avait chassés aussitôt parce qu'injustes envers son mari. Un soir, elle était restée près d'un quart d'heure en présence de son père, sans que l'un et l'autre eussent prononcé une parole. Des amis étaient venus aux nouvelles. Leur devoir accompli, ils s'étaient longuement entretenus avec elle. On n'avait pas voulu qu'elle repartît tout de suite. On avait essayé de la persuader de rester à Paris. Et ce qui l'avait le plus touché, ça avait été quand sa mère, pourtant si froide d'ordinaire, lui avait demandé avec inquiétude si elle était heureuse. Dans le train du retour, Annie avait songé à tout cela. S'était-elle conduite comme elle aurait dû? N'était-elle pas partie trop vite? Devant tant d'affection, n'aurait-elle pas dû prolonger son séjour à seule fin de montrer qu'elle avait été sensible aux attentions qu'on lui avait témoignées? N'avait-elle pas fait preuve de sécheresse de cœur en rentrant à Nice avant de connaître le résultat de l'opération de Bertrand? En quittant sa famille à la date qu'elle avait annoncée en arrivant, cela pour qu'on comprît qu'elle ne s'imposerait pas, n'avait-elle pas répondu par de la froideur à tant de bonté? De quoi gardait-elle donc rancune à sa famille? Celle-ci n'avait-elle pas fait que son devoir? Puis, à la réflexion, il lui était apparu qu'elle n'eût pu agir autrement, non qu'elle fût d'une nature à supputer les avantages qu'on trouve à faire languir une réconciliation, mais parce que, au cours de son existence de femme mariée, elle avait été fière, malgré ses plaintes, d'être exposée à ces mêmes soucis qui, jeune fille, lui avaient semblé réservés aux artistes seulement et qu'elle avait surtout tenu à ce qu'on sût à Paris que son mariage, loin de la diminuer, l'avait rendue meilleure. La situation d'exception où elle se trouvait, la chasse que lui donnait, ainsi qu'à Jean Melchior, Ernestine Mercier, les précautions qu'il prenait pour cacher leur retraite, tout ce qui, en un mot, lui semblait n'arriver qu'à elle, l'entretenait dans l'illusion qu'elle avait une expérience plus grande de la vie que son propre père. Elle avait donc bien fait de partir à la date qu'elle s'était fixée. Elle avait montré ainsi aux siens, mieux que par des paroles, qu'elle n'avait ni rancune ni regret, qu'elle était simplement devenue une femme. Monsieur et Madame Ettlinger ne parlaient pas. Tout leur semblait léger et lointain. Les étoiles paraissaient s'être arrêtées de monter. Elles scintillaient à la hauteur où passent les nuages, chacune selon sa force. Annie respira profondément. Il ne restait rien des gens qu'elle avait vus, des propos qu'elle avait tenus. Les sabots du cheval, son grelot aussi gros qu'une pomme, chantaient à ses oreilles. À toutes les fenêtres des hôtels, il y avait une lumière. Elles étaient toutes pareilles, chacune éclairant la même chambre, celle d'un blessé. Parfois, le regard d'Annie rencontrait celui de son mari, et tous deux se souriaient alors. Le seul fait de se retrouver, après une séparation d'une semaine, n'eût pas provoqué ce contentement si celle-ci n'avait pas été causée par un malheur. Il apportait avec lui ce malheur, des perspectives de changement, il apportait ce que le ménage souhaitait confusément depuis des années, depuis surtout qu'il craignait de se trouver un jour dans le dénuement, l'espoir d'une réconciliation avec les villes mûres. Annie n'avait pas encore parlé de son père ni de l'accueil qu'on lui avait fait. Jean Melchior n'osait l'interroger. Bientôt, ils arrivèrent à avenue Félix Faure. La chaussée était large, luisante et bordée de palmiers. La voiture s'arrêta. Annie prit la main de son mari. Il leva les yeux. « Nous sommes arrivés, » dit-elle avec vivacité. Elle se reprochait à présent d'avoir songé aux conséquences heureuses que pourrait avoir sur sa vie le malheur qui atteignait sa famille. Au mois de mai de la même année, Bertrand mourut des suites de ses blessures. Depuis son retour, une correspondance suivie s'était établie entre Annie et ses parents. Ils ne lui avaient pas caché que l'état de Bertrand était très grave, mais comme chacune de leurs lettres avait été écrite avec le souci visible de plaire, cet état du frère avait pris l'aspect d'un prétexte à garder contact et seul avait compté la façon dont elles étaient commencées ou terminées. Aussi, en apprenant la mort de Bertrand, Annie, bien qu'elle eût dû s'y attendre, fut-elle frappée, comme si son frère l'avait quittée une heure plus tôt en bonne santé. Comme elle faisait ses préparatifs de départ, elle reçut un second télégramme de son père lui demandant de venir le plus vite possible à Paris. Cette invitation lui fit oublier tout ce qui la séparait des siens. Ce fut à ce moment qu'elle eut l'idée de se faire accompagner par son mari. Mais quand elle lui fit part de son désir, elle eut la surprise de constater que ce projet ne lui causait aucune joie. Elle lui en demanda la raison. Après une hésitation, il lui répondit qu'elle se trompait, qu'au contraire, il se réjouissait beaucoup de l'accompagner. Si M. Ettlinger avait essayé un instant de se soustraire à ce voyage, c'était qu'un événement dont il n'avait pas voulu parler à sa femme s'était produit une dizaine de jours plus tôt. À la déclaration de la guerre, sur l'insistance d'Annie, dont la peur de l'avenir s'était décuplée, il avait diminué de moitié la pension qu'il faisait à Ernestine Mercier. Le mois de novembre 1914 ne s'était pas écoulé que celle-ci débarquait à Nice. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'elle faisait ce voyage. Dans les 8 années qui avaient suivi le départ d'Annie et de Jean Melchior, elle l'avait déjà fait 3 fois. Mais celui qui nous occupe eut ceci de particulier qu'à l'encontre des précédents, il ne comporta pas de retour. Jugeant qu'en temps de guerre, il est plus prudent de demeurer près de celui dont on dépend matériellement, elle s'installa avec son second fils à Menton. En plus de sa proximité de Nice et de la frontière, c'était une charmante petite ville, connue pour son climat, ce à quoi Ernestine Mercier attachait beaucoup de prix, sa santé et celle d'Émile étant aussi précieuses que celle de Jean Melchior. À partir de ce jour, M. Ettlinger fut en butte à toutes les tracasseries possibles. Tout était prétexte à Ernestine pour lui écrire, pour lui faire des reproches. Parmi ceux-ci, il en était un qu'elle n'oubliait jamais. M. Ettlinger ne semblait pas considérer Émile comme son fils. « Je peux t'assurer, lui disait-elle dans chacune de ses lettres, qu'il est pourtant bien de toi. » Jean Melchior ne le niait pas. Cela ne lui en était pas moins très désagréable, Annie n'ayant jamais voulu l'admettre. Mais Madame Mercier ne se contentait pas d'écrire. Par tous les moyens, elle essayait de nuire à celui qui, comme elle le criait partout, l'avait abandonnée. Il y avait à peine 3 mois qu'elle habitait Menton, qu'elle s'était déjà fait de nombreux amis. Elle se faisait passer pour la véritable Madame Ettlinger. Celle qui avait pris sa place était une aventurière, et si elle, Ernestine Mercier, s'était laissée supplanter, c'était par amour, parce qu'elle avait pitié de Jean Melchior pour lui épargner les soucis matériels. Ces histoires impressionnaient les petites gens dont elle s'entourait. Il s'en trouvait qu'elle avait toutes les peines à retenir d'aller plaider sa cause à Nice. Ça avait été sans doute une de ces personnes trop dévouées qui, il y avait 2 semaines, avait écrit à M. Ettlinger, sans la signer toutefois, une lettre dans laquelle elle le prévenait que Jean-Noël, qu'il n'avait pas hésité à favoriser au détriment de son autre fils Émile, menait une existence de débauché, qu'on le rencontrait la nuit dans des maisons malfamées, qu'il avait comme maîtresse une fille des rues. Cette lettre se terminait par des reproches, auprès desquels ceux qui sortaient habituellement de la bouche d'Ernestine semblaient légers. N'était-il pas honteux d'enlever un enfant à sa mère pour l'autoriser ensuite à découcher toutes les nuits? N'était-on pas en droit de se demander si un tel père n'était pas plutôt allemand que français? M. Ettlinger avait appelé son fils. Ce garçon, que nous avons vu dans les bras de son père, cependant que Madame Mercier essayait de l'en arracher, était à présent un grand et maigre jeune homme de 17 ans. Son visage était boursouflé de cette chair mate dont les pores sont visibles. Ses dents étaient plantées de telle manière qu'elles avançaient légèrement, si bien que, même lorsqu'il ne parlait pas, on les apercevait. De l'ensemble de sa personne se dégageait une impression de mollesse, de timidité, d'orgueil. Le front était ridé comme celui d'un vieillard, les traits, le nez surtout, gros. Pourtant, dans ce visage ingrat, il y avait comme une lumière qui venait du regard et qui faisait songer qu'à certains moments, ce jeune homme pouvait être beau. Avec douceur, de façon à ne pas froisser cette pudeur qu'il connaissait pour l'avoir éprouvée au temps qu'il habitait encore Mulhouse, M. Ettlinger avait interrogé son fils. Il n'avait pas tardé à se rendre compte que si la lettre anonyme avait grossi les fêtes, elle n'en avait pas moins contenu une part de vérité. Jean-Noël avait fini par avouer que, ses parents couchés, il quittait parfois l'appartement pour rejoindre une femme dont il donna le nom et l'adresse en pleurant. Jean Melchior calma son fils, lui laissant entendre qu'il n'avait rien fait que d'habituel à tous les jeunes gens, et alors que, tout à sa confusion, Jean-Noël était loin de songer à sa belle-mère, il ajouta, comme si la honte de son fils provenait de ce qu'il craignait qu'Annie n'a pris sa conduite, qu'il n'en parlerait jamais. C'était M. Ettlinger qui, en réalité, craignait le plus qu'Annie n'a pris ce qui s'était passé. Si elle trouvait naturel qu'encore aujourd'hui elle souffrit des fautes ou des faiblesses passées de Jean Melchior, parce que celles-ci étaient, selon elle, inséparables des conditions dans lesquelles elle s'était mariée, tout souci nouveau, que son mari en fût directement ou indirectement la cause, la mettait hors d'elle. Pour cette raison, il était désagréable à M. Ettlinger que quelque chose pût être reproché à son fils. Mais il lui eût été bien plus désagréable encore que celui-ci connût ses craintes. Il avait pour Jean-Noël une profonde adoration. Que son fils pût seulement soupçonner l'infériorité dans laquelle il se trouvait vis-à-vis d'Annie le faisait trembler, soucieux qu'il était de conserver ce prestige qui, malgré ses efforts, diminuait chaque jour. Depuis 2 ans déjà, Jean-Noël l'évitait, et quand il ne pouvait le faire, il n'osait le regarder en face. Il était jaloux de son père. Il avait le sentiment que celui-ci n'était pas digne d'Annie, qu'il ne lui avait inspiré de l'amour que parce qu'il lui avait caché ce qu'il était réellement. Les années ne lui avaient pas fait oublier l'intimité qui avait existé entre son père et Ernestine Mercier. Il se souvenait nettement des scènes qui avaient éclaté dans le modeste appartement où s'était déroulée sa première enfance, ses disputes à propos de sommes d'argent qui, même au lycéen qu'il était, aujourd'hui semblaient insignifiantes, de cette joie qu'il avait éprouvée à être mené rue d'Assas et plus tard dans cet hôtel auquel le voisinage du Panthéon ajoutait de la grandeur et surtout de cette sécurité dans laquelle il se sentait dès qu'il se trouvait auprès d'Annie. Bien qu'il n'eût été qu'un enfant, il avait deviné combien différente de sa mère était cette étrangère qui n'élevait jamais la voix, qui vivait au milieu de livres, de couleurs, d'objets qui lui paraissaient précieux, comme ce petit ours de Berne. Aussi, quand, au reçu de la lettre dont nous avons parlé, M. Ettlinger avait demandé à son fils de le conduire chez cette femme de mauvaise vie à laquelle il avait été fait allusion, Jean-Noël vit-il dans ce désir non pas celui de connaître ses fréquentations, mais l'attirance qu'un homme obligé de vivre dans un milieu qui n'est pas le sien a pour ceux qui lui rappellent son passé. Une sorte d'entremetteuse avait reçu M. Ettlinger et son fils, et sans s'étonner un instant que deux visiteurs aussi dissemblables puissent demander à parler à la même locataire, elle les avait priés d'attendre dans un petit salon, à travers les murs duquel on percevait des cris et des rires. Puis ils avaient été introduits dans la chambre de la jeune femme. Elle les reçut en peignoir. À la vue du compagnon de son amant, si on peut donner ce titre à un lycéen amoureux, elle avait senti un danger. Désireuse avant tout de ne pas avoir d'ennui, elle avait faim de n'avoir avec Jean-Noël que des rapports de camarades. M. Ettlinger s'était excusé de la déranger. Puis, comme s'il faisait une visite de courtoisie, il avait parlé de banalité, si bien que Jean-Noël, malgré sa confusion, s'était demandé pourquoi son père, qu'il s'était attendu à voir en colère, avait tenu à cette entrevue, trop jeune qu'il était, pour comprendre que M. Ettlinger s'était mis volontairement dans une situation humiliante à seule fin d'obtenir de la pitié de son fils ce qu'il ne croyait pouvoir obtenir autrement. Une semaine plus tard, la veille du jour où M. Ettlinger s'était promis de retourner seul chez cette femme afin de s'assurer que tout était bien fini entre elle et son fils, la nouvelle de la mort de Bertrand était arrivée. « Et Jean-Noël, qu'allons-nous faire de lui ?» demanda M. Ettlinger dans la soirée. Il craignait de laisser son fils sans surveillance. « Ce ne sera pas la première fois qu'il restera seul, » répondit Annie sèchement. Une question aussi naturelle que celle que venait de lui poser son mari suffisait pour raviver les craintes qu'elle avait de l'avenir, pour lui faire appréhender qu'on exigeât d'elle quelques sacrifices. Mais elle se reprit aussitôt, ne voulant pas, en un jour comme celui-ci, paraître préoccupée de défendre sa fortune. Le lendemain matin, dans la même voiture qui devait l'amener à la gare une heure plus tard, Jean Melchior conduisit son fils chez un professeur anglais du nom de Stevenson. Établi en France depuis une dizaine d'années, ce professeur prenait exclusivement en pension de jeunes compatriotes. Par déférence pour Annie, il avait consenti à une dérogation. Depuis longtemps, il avait remarqué que M. et Mme Ettlinger n'appartenaient pas au même milieu. Croyant flatter Annie, il lui laissait entendre, dès qu'il était en sa présence, qu'il devinait qui elle était. Pour cette raison, M. Ettlinger lui avait confié son fils, ce choix devant, dans son esprit, calmer l'irritation que sa femme montrait dès qu'elle s'engageait dans de nouvelles dépenses. Il s'était trompé pourtant, Mme Ettlinger ayant toujours eu pour ses admirateurs la plus complète indifférence.